Alors, j'essaie de recueillir vos attentes, vraiment de les synthétiser. Effectivement, on est un public divers. Donc, ça va être très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup le souhait d'échanger. Donc, ça tombe bien. C'est la logique d'un réseau, d'échanger. Donc, on est bien dans la thématique du jour. À la fois entre professionnels de santé, mais aussi entre chrétiens. Donc j'espère que la journée, bien au-delà finalement des interventions, ben, la journée devrait remplir cette attente-là. Faut pas qu'on hésite à discuter les uns les autres. J'ai vu sur le programme qu'il y avait des moments aussi de travail en petit groupe, j'en avais prévu un. Je pense que ça va vraiment être l'occasion d'échanger, à la fois entre professionnels de santé, entre chrétiens. La vision biblique sur le sujet, Michael nous a fait une introduction. Je pense qu'au moment de la table ronde, on aura la possibilité, s'il nous reste des interrogations, de revenir sur l'aspect biblique de l'accompagnement des patients usagers de substances potentiellement addictives ou de patients dépendants. Je reviendrai sur la nuance que je apporte. Il y a un besoin pour certains d'avoir quelques outils dans l'accompagnement, parfois ciblés sur certains publics, donc le public jeune. On a parlé de l'accompagnement médicamenteux. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une démarche d'injonction? La justice nous demande de suivre quelqu'un, la famille nous demande d'aider quelqu'un. C'est un classique, je vais me présenter tout à l'heure, mais classiquement, en tant que médecin généraliste, j'ai l'appel de la fille disant « Vous allez recevoir cet après-midi mon père pour un renouvellement de médicaments, il a des problèmes d'alcool, donc ce serait bien que vous en parliez. » Injonction de la famille, qu'est-ce qu'on fait, parce que lui, il vient pas pour ça, le patient, ou le jeune que la justice vous envoie dans des XAPA, pour ceux qui travaillent dans des structures, parce que ben, il a pris la main dans le sac, il dit, et puis... injonction aux soins, sinon en prison. Bon. Michael tout à l'heure a abordé l'aspect du regard. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, pour le coup, parfois on ne se sent pas à l'aise avec les questions, et forcément quand on ne se sent pas à l'aise avec le sujet, on n'a pas le même regard que lorsqu'on se sent plus à l'aise. Je vais être très très dans une posture de professionnel de santé, probablement un peu neutre dans mon intervention en ce qui concerne l'accompagnement sur mon vécu de chrétienne. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle disposition d'écoute on est? On a parlé de l'écoute, de la disponibilité, l'écoute disponible. Est-ce qu'on peut être dans une écoute active, non jugeante? Voilà, est-ce qu'il y a des outils qui existent éventuellement? Et est-ce qu'on peut être dans une écoute active avec quelqu'un qui n'a pas envie de se soigner? La pression judiciaire ou familiale. Donc c'est très intéressant, on essaiera d'aborder tout ça. Et puis parfois, c'est des sujets qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, parce que notre entourage aussi souffre, nous souffrons nous-mêmes d'un problème d'addiction. Et là, on n'est plus dans une démarche de soignant. Voilà. On est dans une démarche de père, de mère, d'oncle. Et tout à coup, c'est pas tout à fait pareil. C'est comme quand on accompagne quelqu'un qu'on connaît très bien dans un problème de santé tout court. On a parfois du mal à prendre de la distance. Donc on pourra éventuellement aborder ces aspects-là. Des choses qui sont très, très générales, qui sortent un peu du contexte de l'addiction, qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de sujet, il y a un problème de santé, que ce soit l'addiction ou non, dans une structure de soins, et moi je suis chrétien, et en tant que chrétien, j'ai envie de faire certaines choses, de parler de certaines choses, mais je suis dans mon milieu professionnel où je peux ou ne peux pas faire certaines choses. Ça sort du champ spécifique à l'addiction, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les réseaux en fait réseau santé, mais plein d'autres que j'ai bien été constitué, c'est pour nous permettre d'aborder ces questions-là. J'ai une certaine posture en tant que professionnel, mais je suis aussi chrétien. Et comment je fais dans mon milieu professionnel, avec mes collègues, avec mon patron, avec les patients, les clients, pour aborder pour rester dans l'intégrité tout en exerçant mon métier. Voilà. J'espère qu'on pourra aborder cette question-là. Vous aurez probablement le sentiment, on va essayer de répondre un peu à tes demandes, que la présentation que je vais faire n'aborde pas la question, mais je me suis voulu volontairement assez neutre dans les aspects que je vais vous présenter, pour avoir le temps de vous en présenter le plus possible et qu'on profite des moments probablement de discussion pour aborder tous ces aspects-là. Et après, c'est un immense plaisir de pouvoir échanger avec des psychologues aussi, vraiment. Je pense que c'est vraiment, enfin, vous avez une idée géniale de permettre qu'il y ait cette vision chrétienne et puis du psychologue qui, enfin, je trouve ça excellent parce que je vais avoir une posture qui est parfois un peu, je fais un peu d'accompagnement, mais j'insiste, hein, je ne suis pas ni psychologue ni psychiatre et je sais passer la main à mes collègues quand il le faut. Voilà. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'un suivi psychiatrique ou psychologique, mais quand il faut savoir passer la main. C'est intéressant d'avoir là la bord aussi d'un autre professionnel qui accompagne les patients en souffrance d'addiction. Alors je vais essayer de me présenter. Donc je m'appelle Shahrazad Kinoani, je suis d'abord médecin généraliste, et fière de l'être, j'insiste beaucoup dessus, parce que comme j'ai pas mal de casquettes, c'est toujours un peu difficile de savoir même moi-même ce que je suis. Hein. Donc je suis d'abord médecin généraliste, j'ai fait un premier cursus de formation médicale en tant que médecin généraliste, donc je suis thésée et installée dans un village rural, magnifique, perdu dans les vignes avec beaucoup de pesticides, qui s'appelle Targon, je suis à 35 km de Bordeaux. En voiture, pas à vol d'oiseau. J'y exerce 2 jours par semaine en tant que soignante dans une maison de santé pluriprofessionnelle. On est 25 professionnels de santé dans la structure, des kinés, une psychologue, des infirmiers, des orthophonistes, etc. Qu'est-ce que je fais le reste de ma semaine? J'ai des fonctions universitaires. Donc je suis dans un département de médecine générale à l'université en tant que chef de clinique. J'ai donc une fonction d'enseignement et de recherche au département de médecine générale. Et puis j'ai entamé un nouveau cursus de formation médicale. Donc je suis aussi doctorante en santé publique. C'est-à-dire qu'en plus de ma thèse d'exercice, là je suis en train de faire une thèse de sciences, donc en santé publique, une thèse d'épidémiologie, toujours dans le domaine des addictions. Je m'intéresse vraiment, mon axe de recherche à moi, aux trajectoires d'usage de la cigarette électronique en population jeune. Je suis passionnée par le sujet, on pourra en discuter si vous voulez. Ça va sortir de vraiment de ce cadre-là, j'en parle absolument pas, parce qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait une dépendance à la cigarette électronique. Donc, débat clos. Mais on peut en discuter en off. Alors, pourquoi je vous parle d'addictologie alors que je suis médecin généraliste? Parce que j'ai une formation addicto, donc j'ai fait un début d'addictologie localement. Je suis un peu tombée dans le bac quand j'étais petite. Hein, au moment où probablement on en a commencé à en discuter, je pense que je devais finir mon DU à ce moment-là. Je ne suis pas psychiatre, je ne voulais pas avoir la version psychiatre de la prise en charge des addictions, mais vraiment celui de l'acteur en soins primaires, du médecin généraliste, qui voit quand même beaucoup de gens qui vont bien. Et même la grande majorité des gens qui consomment des substances vont bien. Voilà, donc, premier message. Ce qui veut dire que je n'aurais probablement pas la même vision des choses qu'un psychiatre installé dans un XAPA qui voit ce que les gens appellent comme un détox, qui s'injecte du Subutex et puis qui sont dans leur quatrième démarche de prise en charge. Voilà. Moi, souvent, les gens que je vois, ils vont bien, même sous traitement de substitution, ils sont insérés, etc. C'est important, j'insiste sur le fait que je suis médecin généraliste, je suis un acteur de soins primaires. Si un psychiatre vous fait cette présentation, il n'aura peut-être pas la même vision des choses, mais parce qu'il voit a priori des gens qui vont beaucoup plus mal que moi. Quand il les voit, c'est parce que moi je les lui adresse, très généralement. D'accord ? Là, on pourra aborder la vision des patients un peu plus difficiles si vous le voulez. Donc je me suis formée en addictologie, j'ai exercé pendant quelques années, un an et demi dans l'AXAPA, puis ce qu'on appelle les appartements thérapeutiques. Et puis finalement, mon bagage addictologique m'a plutôt orientée vers la recherche. Actuellement, je suis quelques patients, j'ai un peu la casquette addicto en fait dans la maison de santé, donc j'ai des patients sevrage tabac, usage nocif de consommation, et puis tous les patients effectivement à problème qui menacent s'ouvrir les veines si on leur donne pas leur traitement. Vendredi à 19h, ben c'est plutôt moi qui les vois parce que je sais plus gérer effectivement que ma collègue. Voilà. Et ça, c'est très bien comme ça. Ça permet effectivement qu'ils ne soient pas stigmatisés parce que je me sens plus à l'aise pour les prendre en charge. Et puis le GBU, j'y suis rentrée en 97. En tant qu'effectivement étudiante. Et puis là, je suis un peu en dilettante, j'avoue, là, depuis quelques années, mais c'est toujours un grand plaisir de revenir. Voilà pour ma présentation. On va rentrer dans le vif du sujet, peut-être. Je vous propose dans un premier temps de définir un peu l'addiction, les addictions. Puis on aura un petit temps peut-être de questions. Je répondrai à certaines. Certaines, je me permettrai, si ça vous convient, de les garder soit pour la table ronde, soit pour les moments d'échange en groupe. Et ensuite, je vous donnerai des chiffres, voilà, comme une épidémiologiste, je ne peux pas m'empêcher de donner des chiffres, mais je pense que c'est intéressant, vous avez une vision de ce que sont les usages en France, parce que parfois on a des représentations et des croyances, je vais chiffrer les usages des substances psychoactives en France. On a très peu de données sur les addictions sans produits. Il n'y a pas très longtemps qu'en France on s'y intéresse en Europe et ailleurs depuis un petit moment, mais en France pas beaucoup. Alors que nous, en tant que chercheurs, on a peu de données, mais les quelques-unes que j'ai, je vous les apporterai. D'accord. Donc ce que je ne serai pas, c'est philosophe, je ne vais pas rentrer dans des grandes discussions philosophique sur le sujet. Ce que je ne serai pas, c'est juriste. Je peux vous apporter quelques éléments sur l'aspect judiciaire qui encadre les addictions, mais ce n'est pas ma posture. Qu'une substance soit illicite ou pas, ça ne change pas grand-chose dans ma prise en charge de médecin, en fait. Le fait que ce soit illicite, c'est le problème du juriste. C'est important. Parce que ce n'est pas le problème du soignant. Il consomme une substance illicite, mais oui, enfin, le tabac est la substance la plus addictogène que l'on connaisse au monde. C'est un produit réglementé. Donc, je ne dis pas que je suis pour la dépénalisation du cannabis. C'est juste que quand les gens rentrent dans mon cabinet pour une prise en charge, que ce soit le tabac, l'alcool ou le cannabis, la question ne se pose pas pour moi de l'aspect illicite ou pas du produit. Quelqu'un a besoin d'aide, et le côté illicite ou pas, ça c'est le problème du juriste. Ça peut avoir un impact dans la prise en charge globale quand même du patient, parce que on est en sursis parce qu'on a dealé, et que entre la case prison et le soin, entre guillemets, on a choisi le soin, donc on vient là, on n'est pas très convaincu, mais c'est parce qu'on a dilé une substance illicite. Ça a un impact du coup sur la façon dont on rentre dans le cabinet pour venir discuter avec un soignant. On n'est pas toujours dans la même posture que quand on veut vraiment se prendre en charge, etc. Ça a un impact sur la relation que je vais avoir avec lui en tant que soignant et lui en tant que soigné, mais en soi, ça n'intervient que dans le cadre, pas dans la relation. Donc, de quoi on parle ? Dans la grande majorité des cas, quand on parle d'addiction, on parle de produits psychoactifs, c'est-à-dire de produits ayant une action sur le cerveau. J'aborderai le sujet des addictions sans produits tout à l'heure, mais dans la grande majorité des cas, les patients dépendants à quelque chose, sont dépendants à un produit, et c'est ce qu'on appelle des produits psychoactifs. Donc le premier effet d'une substance qui donne une addiction, c'est d'être actif sur le cerveau. Et cette action, Cette action sur le cerveau donne des sensations, et ces sensations induisent des comportements. La première raison pour laquelle quelqu'un reboit, reprend un verre, sans être dépendant ou pas d'ailleurs, c'est parce que la première fois qu'il a bu, il a éprouvé quelque chose. La raison pour laquelle on refuse, une fois qu'on l'a essayé, c'est qu'on a éprouvé quelque chose. Et puis la raison pour laquelle certains, après avoir tenté de fumer un joint, ne refusent plus de joint, c'est qu'ils ont éprouvé quelque chose aussi, mais cette sensation était désagréable. Donc ça produit quelque chose sur le cerveau, cette sensation est agréable ou pas, mais en tout cas les sensations qu'on ressent induisent des comportements. Sauf que, je reviendrai sur cet aspect-là, parce que dans le contexte neurobiologique, c'est une zone spécifique du cerveau qui est concernée. Le cerveau, ce n'est pas que la zone mésocortico-limbique du plaisir et de la récompense. Le cerveau est un tout. Les récepteurs au cannabis, par exemple, aux opacés, ils ne sont pas que dans une petite région du cerveau. Donc, comme c'est des substances qui agissent de façon pas ciblée, il y a d'autres réactions cérébrales que la sensation qui induit le comportement. Et c'est là où vous avez potentiellement, notamment dans un usage répété, prolongé, d'autres actions neurologiques qui peuvent être une atteinte des fonctions cognitives, une atteinte des fonctions exécutives, des difficultés de mémorisation par exemple, qui arrivent chez un fumeur assidu de cannabis, hein, au bout d'un moment, ou des comorbidités psychiatriques qui s'installent, etc. Donc il y a l'action qui induit la dépendance dans une région particulière du cerveau, parce qu'il y a une sensation qui induit un comportement de reprise, et puis ben, ça tape parfois à côté sur le cerveau, hein, c'est comme ça. D'autres actions neurologiques qui souvent sont les complications visibles. Voilà, c'est le trouble praxique, le trouble des fonctions cognitives, les troubles mnésiques, etc. Et puis, même si... Hop, je finis avec l'histoire du système mésocortico-limbique. Donc, ça sera la seule diapo sur les neurotransmetteurs, etc. Vous inquiétez pas. On aime bien, ça fait savant. Enfin bon, bref. Donc voilà, je vous parlais de la zone spécifique du cerveau qu'on appelle le système de la récompense, qui est la zone mésocortico-limbique. C'est un agglomérat de neurones qui libère la dopamine. On dit que la dopamine est une hormone, un neurotransmetteur de la récompense, du plaisir. Et ces neurones, pour différentes raisons, perçoivent, sont stimulés par le cannabis, la cocaïne, l'alcool, largue la dopamine. La personne ressent une sensation de plaisir, et puis quand ils sont vraiment hyper activés avec une consommation répétée, et ben leur régulation est altérée. Voilà. Donc il y a un relâchage de dopamine, mais qui devient inapproprié avec une diminution de la sensation de plaisir qui est censée être ressentie au relâchage de cette substance. Et il se trouve que ces neurones-là vont aussi dans d'autres régions, notamment le cortex préfrontal, où il y a énormément de fonctions exécutives. Et c'est ce qui explique qu'à force d'être hyperactivé dans les usages répétés, il y a des atteintes neurologiques autres qui surviennent. Voilà. Mais la base, la sensation de plaisir, c'est parce que... le sujet a pris du cannabis, ce cannabis vient se fixer sur ses neurones, le neurone est stimulé, il relargue de la dopamine dans le système mésocortico-limbique, enfin le noyau accumbens précisément, il y a une sensation de plaisir, on se dit, c'était chouette, dis donc. Et puis, eh bien, la prochaine fois qu'on est dans un environnement où on est où il y a le produit, on se souvient de la sensation ressentie, eh bien, on reconsomme. D'accord ? Donc, s'il n'y avait pas de sensation de plaisir, on ne reconsommerait pas. C'est ce que certains ados décrivent, d'ailleurs, hein, quand on les voit en consultation. J'étais en soirée avec des potes, on m'a filé un joint. Oh là là, j'étais mal, dis donc. Vraiment plus jamais je le ferai. Voilà. C'est fini. Heureusement, sensation plutôt négative qui font que aucune addiction d'un comportement de reprise. Alors, donc je vous disais qu'il y a d'autres zones du cerveau qui sont stimulées par ces substances, mais pas que. Il existe aussi des récepteurs de ces produits ailleurs. Et c'est ce qui explique aussi que dans les usages répétés, vous avez d'autres organes qui sont atteints. Alors, l'atteinte d'autres organes varie en fonction des substances. Hein. Par exemple, le tabac, on sait que un usage chronique favorise une atteinte du foie, une atteinte du pancréas. Un usage chronique de l'alcool, du tabac peut être à l'origine de cancers du poumon ou de la sphère ORL. Le tabac peut être à l'origine de cancers de la vessie. Que le cannabis ou la cocaïne favorise une atteinte cardiovasculaire, etc. Voilà. Un peu en fonction des substances, il y a d'autres organes cibles. Alors, biologiquement parlant, c'est un problème de récepteur. Hein, pour faire très simple, si on se contenait à l'explication biologique de la chose, c'est comme il y a des récepteurs, par exemple, au cannabis sur certaines régions du cerveau, dans le système mésocortico-limbique, mais aussi sur le cœur, bon, ben, loupé, hein, c'est comme. Comme quand on prend un médicament, on prend un antibiotique pour lutter contre une infection, il est censé agir à un endroit, mais on a des effets indésirables parce que cet antibiotique agit aussi ailleurs. Voilà. Donc là, en fonction de l'endroit où se trouvent les récepteurs à la substance prise de façon assidue, il y a d'autres complications au niveau d'autres organes qui surviennent. Voilà. Alors, il y a les atteintes des organes et puis il y a les atteintes autres qu'on voit dans les consommations assidues. Alors, les atteintes traumatiques, c'est classique chez les patients alcooliques. Les patients alcooliques sont plus à risque de fractures, par exemple, parce que dans un état d'ivresse, il chute, il se casse 3 vertèbres, il se fait opérer. Les patients qui s'injectent les drogues sont plus à risque d'infectieux parce que quand ils sont dépendants, pas toujours le temps d'aller chercher un stéribox dans le centre du coin, donc on s'injecte avec une seringue déjà usagée, enfin, voilà. Donc on se met à risque d'atteinte d'hépatite ou de VIH, il y a le risque social, il y a le risque financier, hein, le jeu pathologique, je vais me refaire, alors pour se refaire, on va rejouer, et puis envie de le livrer à. L'aspect financier, parce que le tabac, ça a un prix. Hein. La meilleure façon qu'on ait trouvé pour l'instant dans le monde de réduire la consommation de tabac, c'est d'augmenter le prix, ça marche. Dans les études, c'est vraiment, je suis sûre que ça marche. Mais il y a quand même des gens qui continuent de fumer alors que le paquet de tabac coûte cher. Et puis pour certaines substances, il y a l'agressivité. Voilà, l'agressivité de l'ivresse cannabinique, l'agressivité, alors l'auto ou l'hétéro-agressivité d'ailleurs, chez les patients usagers chroniques d'alcool. Ces complications-là, effectivement, elles sont très substances dépendantes. C'est ce qui fait que certaines addictions sont plus gênantes socialement que d'autres. Hein, les patients, enfin, proportionnellement, en chiffre absolu, l'addiction la plus fréquente, c'est l'addiction au tabac. En France, c'est quand même plus socialement bien vécu d'être dépendant au tabac que d'être dépendant à l'alcool ou d'être dépendant à l'héroïne. Parce qu'il y a d'autres choses derrière. Il y a l'aspect visible, les dommages visibles qui ne sont absolument pas les mêmes. Et puis il y a, on rediscutera tout ça, les facteurs qui amènent à la consommation de certaines substances qui font que, pour avoir pris en charge des patients dépendants à l'héroïne, certains d'entre eux ont des parcours de vie Si ils sont dépendants à l'héroïne, c'est pas par hasard, quoi. Il y a quand même des choses qui sont passées dans leur vie qui font que un jour ils se sont rencontrés, ils ont rencontré le produit, et dans une certaine circonstance, du coup, ils ont consommé, et puis ils ont consommé de façon très très régulière, et ils sont finalement devenus dépendants. Mais l'héroïne n'est pas la substance, addictologiquement parlant, la plus enfin, c'est pas celle qui produit le plus d'addiction si on se contente de regarder le produit. C'est la plus stigmatisée. Donc il y a les complications sociales qui varient finalement en fonction des produits. Et puis il y a des caractéristiques, enfin des facteurs environnementaux et individuels qui viennent se surajouter en amont en fait au processus addictif. Mais on reviendra dessus. Toujours est-il que quand la raison pour laquelle, une fois qu'on a essayé de fumer, une fois qu'on a essayé de boire, enfin la première fois qu'on a bu un verre d'alcool, ou la première fois qu'on a fumé un joint, on décide d'y retourner une deuxième fois, c'est d'abord parce que ça procure un certain plaisir. On ne le fait pas pour se faire du mal. Moi, je bois du vin de temps en temps. J'en bois, a priori, parce qu'effectivement, ça procure un certain plaisir. Et celui qui fume au départ, la deuxième fois qu'il fume, on peut dire, oh, c'est pour faire comme les copains, enfin, peut-être, mais il y a quand même, en tout cas, ça ne faisait pas du mal. Donc, il y a dans l'initiation des usages un aspect de plaisir, de soulagement qui est de toute façon vécu, mais plus on devient dépendant, c'est-à-dire plus l'usage change, moins le plaisir et le soulagement ressenti diminuent. Et par contre, la sensation. Hop, ouais. C'est ce que je disais, hein, moi et les flèches, ça fait deux. Par contre, la perte de contrôle, lequel parlait du pouvoir, j'utiliserais beaucoup le terme contrôle, mais il a effectivement raison, c'est-à-dire que la sensation de plaisir, le soulagement diminue, ou alors pour avoir le même soulagement, on est obligé d'augmenter la quantité qu'on ingère, et par contre, plus le temps avance, moins on a de contrôle sur la substance, sur le produit ou sur le comportement. Donc l'addiction, on n'est pas dépendant quand on est là au tout début, on est dépendant avec le temps. Ce qui veut dire que, enfin la question, c'est du coup est-ce que ceux-là, ils ont besoin d'être pris en charge? Et qu'est-ce qu'on entend par prise en charge de celui qui se trouve là? Il va de soi qu'en fonction de où on est dans la courbe, on n'a pas en tant que soignant la même attitude et le même accompagnement. Si on a exactement le même message entre celui qui est là, qui a du plaisir, absolument aucune perte de contrôle, et celui qui est à la fin de la courbe, hop, ici, qui ne ressent aucun plaisir, aucun soulagement, qui a essayé 40 fois d'arrêter, qui n'est pas arrivé, qui a divorcé, qui a perdu son travail, qui a un sentiment de culpabilité. Si on leur dit tous les deux la même chose, on n'est pas dans une bonne posture en tant qu'accompagnant. Parce que celui-là, il va mourir au nez, hein, celui qui ressent du plaisir, ne voit pas où est le problème, il va remettre ça plus tard. Et puis celui-là, si le message c'est pas bien, ben, ça fait 40 ans qu'il sait que c'est pas bien. C'est pas ce qu'il attend comme accompagnement. Moi, d'ailleurs, les deux savent que c'est pas bien. Celui-là, il sait que c'est pas bien, mais il est jeune, ça peut attendre plus tard. Et puis celui-là, ça fait longtemps qu'il sait que c'est pas bien. C'est pas un regard jugeant qu'il attend du soignant, c'est vraiment de l'aide. Donc l'addiction, c'est ça. Alors, c'est ce qui est compliqué après, c'est de savoir les patients dépendants, quand ils sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Mais en tout cas, ceux qui sont dans la première partie là, du diagramme, qui ressentent énormément de plaisir absolument aucune perte de contrôle, ou pas beaucoup, ceux-là, parfois, on est juste à côté avec des messages messages adaptés, et puis de temps en temps on y va pour augmenter leur motivation à arrêter éventuellement le mal d'un peu les substances. Sur la partie accompagnement, c'est un peu. Si nous y arrivons, j'aimerais qu'on aborde l'aspect de, en fonction d'où il se trouve, dans un usage contrôlé, mais il y a eu quelques dérapages. Hein, c'est le jeune qui n'est absolument pas dépendant à l'alcool, qui prend la voiture en samedi soir avec des copains, après avoir bu énormément d'alcool, et puis qui va continuer à boire de l'alcool avec les copains, qui se fait choper par les flics, qui n'a pas eu d'accident, Dieu merci. Et puis les parents sont appelés dans la nuit pour venir récupérer tout le monde. C'est une ivresse alcoolique chez l'ado de 15 ans qu'on voit aux urgences. Mais ils ne sont pas dépendants, la grande majorité d'entre eux. Ils font ce qu'on appelle des abus. Voilà. Il faut avoir un message adapté aussi aux abuseurs non dépendants. Vous voyez, il y a différents usages. Je reprends le terme pour lequel utiliser l'usage, je l'utilise jusqu'à la fin. Je n'utilise pas le terme toxicomanie. Il y a différents usages. Et dans ces usages, il y a la dépendance. Et il est important de savoir où les patients qu'on voit se situent. Parce que l'accompagnement n'est absolument pas le même. Vous n'hésitez pas à me couper si vous voulez intervenir, si vous voulez que j'apporte des précisions. Alors, on va quand même faire une petite partie définition. Je vais vous les lire, puis on va essayer de résumer ça. La première, une des premières définitions faisant consensus a été celle de Goodman en 90, qui définissait les addictions comme étant une impossibilité à résister à l'impulsion du comportement, avec une tension croissante qui précède la période d'usage. Juste avant de consommer le produit, il y a une immédiateté, un besoin urgent de consommer et un soulagement ressenti quand on consomme. Néanmoins, chez le patient dépendant, il y a une préoccupation de plus en plus fréquente, de plus en plus importante à sa consommation, ce qui veut dire que parfois il arrête certaines choses pour pouvoir répondre à ce besoin urgent d'être soulagé. Une durée plus importante des épisodes, une intensité plus importante, probablement liée au fait qu'il augmente les dosages du produit, des tentatives répétées pour arrêter, une atteinte des activités sociales, professionnelles ou récréatives. Chez certains d'entre eux, il y a la perception qu'il y a des dommages qui existent déjà, mais l'impossibilité d'arrêter la consommation alors que les dommages existent. C'est pas le cas de tous les patients, mais certains commencent à se dire « Ah, mais quand même, il y a des problèmes, mais je n'arrive plus à arrêter. » Et le mécanisme de tolérance, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le fait que pour ressentir le même effet de soulagement, on soit obligé d'augmenter la quantité du produit. Au début, ça arrive avec certains médicaments, hein, c'est le patient qui nous dit en consultation, au début je prends un demi-comprimé de tel benzo pour dormir, et puis au bout d'un mois, alors qu'on savait très bien qu'il fallait l'arrêter, « Ah ben docteur, j'ai augmenté ah, !» oui. Bon, d'accord. Et puis, qui, au bout d'un an, ne veut surtout pas que vous lui arrêtez la benzodiazépine pour induire le sommeil. Donc, l'augmentation de la quantité du produit pour ressentir les mêmes effets. Et il y a toujours dans l'addiction une notion de durée. Parfois, on est bien embêté d'ailleurs dans le soin parce que patients, on nous amène à la patiente en disant il est dépendant à ça. Moi, je sais pas. Peut-être, mais comme il me manque la notion de durée, je ne peux pas être dans l'affirmative et dire que le patient est réellement dépendant. Une autre définition, mais qui correspond à peu près déjà aux éléments de la première que je vous ai présentée, c'est celle de la classification interpersonnelle des maladies, la CIMDIS, qui n'utilise pas le terme. Addiction, mais le terme dépendance, avec toujours ce désir puissant et compulsif, l'immédiateté de la consommation, une atteinte de la capacité à contrôler l'usage, donc le syndrome de tolérance et le sevrage à l'arrêt, l'idée de la préoccupation, vous voyez, c'est exactement finalement les mêmes symptômes, comportements qui sont décrits, et la notion d'usage prolongé qui se répète. Et dans la CIMDIS, il y a une notion de 12 mois minimum. le DSM-5, qui est le manuel psychiatrique, qui fait plutôt référence à la définition des addictions. Dans la dernière version, là, date de 2013, on a exactement les mêmes facteurs. Je regarde ce qu'il y a de nouveau. Oui, alors ce qui est nouveau dans le DSM-5, c'est l'aspect sport de gravité. C'est vrai que ça, c'est tout nouveau pour nous là, depuis quelques années. On classe, entre guillemets, les patients entre addiction légère, modérée et sévère. Je pense que c'est un plus quand même dans la façon dont on aborde les patients, et c'est la seule nouveauté, on va dire, du DSM-5. Au final, l'idée est toujours un peu la même. L'addiction, c'est un usage ou un comportement de consommation de produits psychoactifs assorti à des conséquences négatives face auxquelles le sujet perd une partie de sa liberté. C'est déjà une chose sur laquelle je trouvais que la phrase résumait bien le problème. C'est une phrase de Vospon et Lépine dans une revue, un livre qui fait référence. Les grands mots sont ceux-là. Donc, addiction et dépendance, pour nous, ce sont des synonymes, en fait. Il y a dans la définition un besoin impérieux compulsif d'usage, ce qu'on appelle en addictologie le craving. Il y a la notion de perte de contrôle. Je sens bien que ça m'échappe. J'ai une préoccupation fréquente à consommer. L'accumulation de dommages fait partie de la définition. Quand il n'y a pas de dommages, on ne peut pas parler de dépendance. C'est inéluctablement un patient dépendant, c'est quelqu'un qui consomme. Cette consommation induit des problèmes médicaux, induit un problème social, induit des problèmes financiers, induit des problèmes judiciaires. Et tout ça, ça s'additionne, ça se cumule, et malgré tout, il continue. Donc il y a un retentissement sur la vie professionnelle, scolaire, relationnelle, un usage répété, prolongé, classiquement. Le délai de 12 mois est un délai qu'on utilise en addicto. Dans deux postures, la grande majorité des cas, on voit en fait en consultation des patients qui consomment depuis des années, donc le diagnostic est assez facile à porter. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est des patients, surtout des jeunes d'ailleurs, qu'on nous amène en disant voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ça fait 6 mois, on perçoit que les dommages se cumulent. Si on voulait contourner la définition, ce serait compliqué que de dire que ce sont des patients dépendants. Après, on est soignant, en étant soignant, ça arrive que on se les garde sur le coude, hein, c'est parce qu'on arrive de façon régulière, rapprochée pour se dire quand les dommages commencent à s'accumuler de façon intensive, là il y a un problème. Donc ça, ce sont vraiment les mots-clés qui définissent l'addiction. Donc quelques exemples de produits psychoactifs, hein, l'alcool et le tabac, qui sont les substances réglementées, autorisées, légales en France, mais quand même les plus pourvoyeuses de patients dépendants. D'autres produits psychoactifs, il y a certains médicaments. C'est pas des drogues, ce sont des médicaments, hein, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les hypnotiques, les antiépileptiques, les bêta-bloquants, ce sont des médicaments qui agissent sur le cerveau, donc c'est des produits psychoactifs.
Les antiépileptiques aussi.
Ouais, il y a des antiépileptiques qui ont des actions aussi sur le cerveau. Mais par définition, tout produit qui agit sur le cerveau est un produit psychoactif.
Et qui sont utilisés pour.
Non. Là, je vous présente des produits psychoactifs. Prenons de la distance. Un produit qui agit sur le cerveau est un produit psychoactif, quel qu'il soit. Donc, le bêta-bloquant, qui est un traitement contre prescription l'hypertension, cette famille-là, c'est un produit psychoactif à partir du moment où il y a des effets sur le cerveau. Voilà. Sauf qu'il ne produit pas de dépendance. Donc, tout produit qui agit sur le cerveau ne produit pas de dépendance. L'alcool, le tabac, oui. J'ai volontairement séparé cannabis, cocaïne, ecstasy, en fait, les nouveaux produits de synthèse, l'héroïne, parce que là, pour le coup, c'est des produits considérés comme illicites en France, psychoactifs, donc avec action sur le cerveau. Mais tout ça, dont les antiépileptiques et les bêta-bloquants, ont une action sur le cerveau. D'ailleurs, certains d'entre eux, on préfère qu'ils aient une action sur le cerveau. Enfin, les antiépileptiques, À la base, on les prend un peu parce qu'on espère qu'ils vont avoir une action sur le cerveau pour traiter l'épilepsie. Donc tout produit agissant sur le cerveau n'induit pas une dépendance. Certains d'ailleurs sont pris pour ça. Et dans les produits psychoactifs induisant une dépendance, comme l'alcool et le tabac, le cannabis, la cocaïne, etc., certains sont illicites, d'autres ne le sont pas.
Je savais pas que les
bêta-bloquants avaient un action. Oui, par exemple, très classiquement, ça donne des cauchemars, ça diminue la libido. Alors, une autre notion du coup en addicto, c'est notamment avec les produits. C'est plus facile cette notion-là à expliquer avec la consommation avec produits. C'est la relation entre l'usage qu'on a, l'individu et le contexte dans lequel il est amené à avoir un comportement addictif, qui a été décrit par Oliver Stein en 1970, en disant que l'addiction se produit quand un individu avec ses vulnérabilités rencontre un produit, un pouvoir addictogène particulier, dans un contexte particulier à un moment donné. S'il fallait donner une autre définition de l'addiction. Ce qui veut dire que un patient avec les mêmes vulnérabilités n'aura pas une dépendance à un produit en fonction du pouvoir addictogène à un moment donné. S'il rencontre l'héroïne le mauvais jour, il y a plus de risques qu'il devienne dépendant. S'il avait rencontré un autre jour, c'est-à-dire dans un contexte différent, à un moment différent, peut-être qu'il n'aurait jamais eu la sensation qu'il a ressentie, qui est venue, enfin le soulagement qu'il a ressenti, et donc il ne serait pas devenu dépendant. Ce qui veut dire aussi qu'à vulnérabilité égale, on a plus de risques avec certains produits de devenir dépendant qu'avec d'autres. Par exemple, à vulnérabilité égale, si vous fumez une fois une cigarette, inéluctablement, vous donnez toutes les chances de devenir dépendant au tabac. À vulnérabilité égale, si vous, vous essayez une en fait, vous avez quand même moins de risques que si vous aviez fumé du tabac le même jour. Il y a un pouvoir addictogène qui fait que on dit même que, par exemple, tout fumeur quotidien est dépendant. On parle de penser qu'à partir du moment qu'on fume tous les jours, il est dépendant. La substance est trop addictogène pour que ce soit possible de fumer tous les jours, de ne pas l'être. C'est un discours classique, hein, les personnes qui disent « Oui, je fume tous les jours, mais oh, ben, vous savez, demain j'arrête. Ben, essayons. Voyons. J'arrête quand je veux. » Moi, je leur dis « Ben, essayons. Ah ben, super, essayons. Voilà. Ben, on se voit dans 15 jours. Voilà. » Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était compliqué, j'étais tendue, alors on travaille sur les sensations. Qu'est-ce que vous avez fait pour les soulager? Ben, j'ai repris. Comment vous l'avez vécu? C'est là où vous décrivez le besoin urgent qu'ils ont ressenti quand ils ont arrêté de fumer alors qu'ils pouvaient, demain j'arrête, le soulagement qu'ils ont ressenti quand ils ont repris la cigarette, le soulagement que la famille a ressenti parce qu'il était irritable depuis 3 jours, donc il était temps qu'ils reprennent, et puis le désarroi de la perte de contrôle, c'est disant mais je pensais que, voilà, et tout d'un coup on peut commencer un travail, d'accord. Je dis à vulnérabilité égale parce qu'il y a aussi des gens qui trimballent des valises, qui font que s'ils n'avaient pas eu ces valises-là, jamais, même avec un produit très addictogène, ils seraient devenus dépendants. C'est les comorbidités psychiatriques, c'est les facteurs génétiques qui sont très très décrits pour la dépendance à l'alcool, c'est les traumatismes de vie, et puis il y a l'environnement. Il y a quand même plus de risques d'être dépendant au tabac en France que de l'être dans certains pays d'Afrique, d'être dépendant à l'alcool en France que de l'être dans certains pays du Maghreb. Il y a l'environnement, enfin, culturel, religieux qui fait que, familial, on sait que dans les familles, ça c'est très clairement décrit dans les études, où il y a une certaine tolérance à la consommation de tabac, hein, des postes 68 tards qui resteront postes 68 tards toute leur vie, ont quand même un tout petit peu plus de risques d'avoir des enfants dépendants au cannabis que d'autres. Et puis il y a le contact des pères, alors, qui est décrit en tout cas comme un facteur d'initiation, son effet sur l'entretien de la dépendance est un peu plus partagé. Est-ce que vous avez des questions ? Non.
Est-ce qu'il y a un rythme de dépendance? Quand on dit tous les jours, mais mettons, si c'est un rythme sur la semaine ou une fois par semaine, est-ce que. Ben, à quelle fréquence? Est-ce qu'on peut définir une dépendance?
C'est très patient dépendant, enfin, c'est très sujet dépendant en fait. On n'a pas de rythme. Particulier. Dans l'alcool, c'est classique. On voit souvent traîner dans les bouquins le patient qui. Enfin, on a dû vous dire hein, que l'homme, au-delà de 3 unités d'alcool par jour, est plus à risque, que la femme, au-delà de 2 unités d'alcool, est plus à risque. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne consomment pas de la semaine, mais qui se mettent une biture le week-end? Il y a quand même un problème. Voilà. Et qui se mettent une biture tous les week-ends depuis plusieurs années. Donc, d'où la délicatesse de ne pas se mettre dans un abord quantitatif du problème. C'est par exemple pourquoi j'insiste vraiment sur les aspects perte de contrôle, besoins urgents, et que je ne vous ai absolument pas parlé des seuils de l'OMS sur le nombre d'unités d'alcool, etc. Parce que, notamment dans la nouvelle génération, on a énormément de jeunes qui ont des... un mésusage d'alcool, mais un mésusage du week-end. Moi, j'ai quelques patients comme ça que je suis parce que ils ont été violents envers leur épouse, c'est des jeunes, hein, mais c'était après à la quatrième mi-temps là, du match de rugby, et que en fait, ils ont la réputation d'être des bons vivants de l'équipe de rugby. Donc ça se passe très bien dans la semaine, ils arrivent à contrôler. Un que je suis a un métier à risque parce qu'il est commercial. Donc il va souvent manger au resto avec les entreprises, etc. Il a perçu qu'il avait un problème puisqu'il ne boit pas d'alcool. Il fait très attention dans la semaine de surtout pas boire d'alcool quand il est avec ses clients. Mais par contre, le week-end, ça commence le vendredi soir après le match de rugby. Il y a toujours un prétexte pour reconsommer avec des super potes, où il se remet une biture. Donc il y a une consommation nocive, répétée depuis de nombreuses années, mais uniquement le week-end. Si je me cantonnais à la définition quantitative, ce patient, je ne le prendrais pas en charge.
Mais juste pour rappel, l'autre définition, c'est l'impulsion. C'est l'opposition entre quantitatif et un...
Oui, c'est-à-dire que soit on a une façon très quantitative d'aborder le problème, qui est, et on voit ça souvent, enfin de moins en moins, parce que les addictologues évitent d'utiliser ces aspects-là. C'est celui qui fume plus de 10 cigarettes par semaine, par jour est dépendant, celui qui boit plus de 4 unités d'alcool pour les femmes, 5 unités d'alcool chez l'homme est dépendant. Celui qui boit plus de 21 unités par semaine est dépendant. Alors sur les nombres de joints, je n'ai pas trouvé de dépendance, de définition. Voilà. Mais c'est des définitions quantitatives qu'on utilise peu. Dans les dossiers de mes patients, je leur demande combien ils sont d'unités d'alcool, par exemple. Et puis il y a unité, parce que je ne sais pas si vous avez.
Oui.
Voilà. On ne boit pas. Voilà. Il y a vert et vert. D'ailleurs, il y a vert et vert aussi entre la France et les États-Unis. Hein. Je ne sais pas si vous regardez les séries américaines de temps en temps. Il y a une série américaine sur laquelle je suis tombée la dernière fois, Cougar Town. Elle passe son temps à boire de l'alcool dans des espèces de ballons là, qui sont énormes. Et je me dis, mais il y a combien d'unités d'alcool dans ce verre-là? Vous voyez, donc c'est pas évident de parler d'unités d'alcool. Par contre, si on fait abstraction de cet aspect quantitatif, qui me permet quand même de suivre les patients, c'est comme la polémique qu'il y a autour d'usage urinaire, par exemple, de détox ou de la cocaïne chez certains patients héroïnomanes et cocaïnomanes. Ça n'a d'intérêt que si ça permet d'avoir une certaine valeur pour conforter la diminution. Vous voyez, on sait que le patient peut sous-estimer sa consommation. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, il m'ait dit 10 cigarettes, puis demain, il m'en dira 3, et puis une. Peut-être qu'il a un petit peu plus. Dans une relation de confiance soignant qui fait que j'accepte la quantité qu'il me donne. Mais si je me cantonnais à l'aspect quantitatif du problème, je pense qu'il y a énormément de gens que je ne prendrais pas en charge. Donc il y a des aspects plus comportementaux, plus dans la recherche de sensations, des facteurs déclencheurs de comorbidité, etc., qu'il faut chercher, l'aspect de la durée, qui conforte le comportement addictif, plus que la quantité. D'accord ? Là, j'explose le temps, là, mais je prends 5 minutes. Je ne sais pas si je suis claire, oui, ou ça répond un peu à votre question. Voilà. Voilà, donc pour rester, alors c'est complètement illisible de loin, je pense. Donc, pour cette définition des usages, du coup, on a une espèce de pyramide où on a, quelle que soit la substance, des gens qui ont un usage simple. J'espère avoir un usage simple d'alcool, c'est-à-dire ben, j'ai un usage contrôlé avec un plaisir à consommer de temps en temps. C'est un usage simple. Il y a un usage après à risque, c'est des gens qui, pour une quelconque raison, s'ils boivent, ils prennent un risque. C'est la femme enceinte. Elle peut avoir un usage contrôlé, mais de façon situationnelle, dans cette période de vie où elle est, elle prend un risque en buvant. Ouais. C'est le conducteur de train ou le grutier qui fume des joints. Il peut avoir un usage contrôlé, mais à partir du moment où il est conducteur de train ou grutier, s'il le fait, il prend un risque. Et rien que le fait de prendre un risque, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dépendant, mais on se met dans des situations quand même où on devrait éviter d'eux, mais on le fait. On n'est pas forcément dépendant parce qu'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de perte de contrôle. C'est un cran au-dessus. L'usage nocif, c'est le fait de commencer à cumuler les dommages. C'est le patient, classiquement, qu'on ne peut pas encore classer dans la dépendance parce que il cumule des dommages, mais pas trop. Hein. C'est mon jeune très inséré, là, chez qui tout se passe bien dans la semaine et qui se met des bitures tous les week-ends, mais qui a un travail. Hein. Et puis, d'ailleurs, il fait bien attention la semaine, parce que comme il est sur la route, de ne pas boire, il est vigilant, mais il y a déjà des dommages. Voilà. Et puis un jour, il va se faire prendre le week-end, on va lui enlever son permis, donc il y aura un dommage supplémentaire. Il commence à s'apercevoir, commence à perdre le contrôle, etc. Et puis il y a ceux chez qui on peut affirmer de façon claire et nette qu'ils sont dépendants, parce qu'il y a les cumuls des dommages, il y a la perte de contrôle, il y a le craving, il y a la préoccupation fréquente, il y a l'altération relationnelle, etc. D'accord ? Et puis il y a tous ceux qui ont des. Je commence à passer vite. Des addictions sans produit. Alors, la seule addiction clairement, sans produit clairement définie dans le DSM-5, c'est l'addiction au jeu pathologique. Enfin, c'est le jeu pathologique. Ils sont dans une espèce de spirale qu'on appelle le modèle de Beck, avec un stimulus interne ou externe qui se répète. Alors, là, j'ai pris l'exemple d'un stimulus externe défavorable, qui est par exemple le conflit. C'est déjà un joueur, il est dépendant celui-là, et dispute au sujet des dettes liées au jeu à la maison, ce qui provoque chez lui un sentiment de colère, qui a besoin d'être soulagé. Et la deuxième étape, c'est se dire qu'est-ce qu'elle m'ennuie celle-là, c'est pas si grave, je vais réussir à régler nos problèmes d'argent, je vais me refaire d'ailleurs, je vais aller jouer. Voilà. L'étape suivante, c'est se dire d'ailleurs, ça va me soulager, parce que le stimulus externe ayant été défavorable, on se dit, je vais aller, non seulement je vais me refaire, je vais gagner de l'argent comme ça, elle va arrêter de se plaindre, mais en plus, je ressens bien que ça va me soulager, ça va faire diminuer l'attention, ça va me faire du bien à moi. Donc on commence à ressentir après la croyance soulagente le besoin impérieux de jouer, donc on y va il y a la deuxième étape, ce qu'on appelle la croyance permissive, c'est de dire, oh, ben, de toute façon tout va bien, hein, c'est demain j'arrête, là c'est pareil, dans le jeu pathologique ils disent, je vais jouer une heure, hop, 100 000 euros et puis j'arrête, donc on va au casino, hop, voilà, on use. On joue, sauf que le problème n'est pas résolu. D'abord, on perd plus d'argent que ce qu'on avait prévu. On va jouer plus longtemps que l'on avait prévu. Et de nouveau, le problème va se reposer du stimulus négatif. Ça aurait pu être un stimulus interne aussi, c'est-à-dire qu'il a ressenti tout ça, il va jouer, il y a des gains, sensations de soulagement, de plaisir qui font que il rentre à la maison, il paye une partie des dettes, mais du coup, ça renforce l'idée quand même d'aller jouer. Vous voyez qu'il y a une espèce de dérèglement, quel que soit le stimulus, on y retourne quand même inévitablement. Donc ça, c'est quelque chose qui est décrit avec les substances, mais qu'on décrit aussi dans les addictions sans produit. Je vais passer. Alors, juste pour dire que, voilà, en addictologie, les produits les plus addicts en termes de pouvoir addictogène, c'est le tabac, puis l'alcool, il n'y a pas photo. Ensuite, c'est le cannabis. L'héroïne, socialement mal vécue, arrive, enfin les OPSC arrivent en quatrième position. Et le reste est en fait marginal, hein. Enfin, dire cocaïne, les amphètes, etc. À la fois en termes de pouvoir addictogène et de nombre de consommateurs, on en a une consommation marginale, hein, en France, en Europe et dans le monde. Donc, les produits les plus addicts sont quand même des produits qu'on nous vend, je tiens à le dire, hein, et qui font gagner du fric à l'État. Oui.
Pas le cannabis.
Ah, oui, pas le cannabis, mais le cannabis est moins addictogène que l'alcool, hein, et le tabac. À vulnérabilité égale et à contexte environnemental égal, je prends une cigarette, je la fume, ou je fume un joint, j'ai quand même plus de risque d'être un jour de finir fumeur que de finir voilà, fumeur de joint, quoi.
Et en plus, ce sont des produits, c'est quand même incroyable, ce sont des produits qui sont contrôlés par l'État.
Oui, c'est contrôlé, oui. Oui.
C'est l'État qui...
On a eu de gros soucis. La loi Evin a été modifiée il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. On a bien senti, hein, la dicto qu'on nous a. Ils ont senti le truc arriver. Ils savaient qu'ils allaient un peu lâcher du lest sur la loi Evin. Donc la prise en charge du sevrage tabagique a un tout petit peu augmenté. Hein. Maintenant, tous les patients CMU peuvent bénéficier de produits de substitution à hauteur de 150 euros par an. Pareil pour tous les jeunes, quelle que soit leur protection sociale, jusqu'à, je crois, 25 ans. Bon, c'est chouette, enfin 150 euros par an. Moi, si je voulais mettre tous les patients fumeurs sous patch, j'ai des patients sous patch, ils ont 3 patchs, hein, de 21. Ça va vite, hein, 150 euros par an. C'est vite fait. Heureusement que quand ils ont besoin de démarches de soins, ça fait tellement longtemps qu'ils fument, ils ont bien calculé que c'est pas très grave, docteur, les 150 euros par an, vu ce que le tabac me coûte. Je veux bien les payer, moi, les patchs. Oui. Mais bon, on se dit quand même dans la balance, là pour le coup, ce que ces produits-là rapportent doit être conséquent pour qu'on n'aille pas plus loin que mettre à disposition de tout le monde des patchs de nicotine. Faut vraiment que ça rapporte beaucoup et qu'il y ait des lobbies importants. On en a conscience. Donc pour terminer, voilà. Donc addiction égale dépendance. Donc volontairement, dans les mots-clés que je vous propose, il n'y a absolument aucune donnée quantitative, mais j'insiste, dans le suivi, oui, en demandant aux patients donc combien de cigarettes vous fumez aujourd'hui, ça a un double avantage, c'est que quelque chose qu'il me dit, même s'il sous-estime, peu importe, je pars quand même du principe que si je suis dans une bonne relation de confiance avec mon patient, parce qu'il m'a choisi moi en tant que médecin traitant, il sous-estime, mais bon, quand même, il me dit une partie de la vérité. S'il me ment, c'est moi qui ai un problème. Donc, c'est après, c'est une posture de soignant que j'ai. Donc j'accueille l'information. Ça va me servir pour le suivi, quand même. Alors, s'il me dit aujourd'hui 10, alors qu'il était à 30, alors, j'accueille la formation de la diminution. Ça sert dans le suivi, en entretien motivationnel, ça nous sert dans l'aide au changement, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité du patient. Donc c'est super. Quand vous me dites 10 cigarettes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à plus de la moitié de votre consommation quand on a commencé. Et on renforce sur cet aspect quantitatif la démarche, la responsabilisation du patient dans sa prise en charge. Quelque chose qu'il m'ait dit, je dis, c'est super. Et s'il me dit, du coup, j'étais à 30, mais je suis à 35, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Peu importe ce qu'il me dit, je peux me servir de l'aspect quantitatif, mais ce n'est pas avec ça que je définis l'addiction. Il y a l'aspect de consommation prolongée, impactant sur la vie sociale, professionnelle, la santé du patient. On considère que l'addiction est un problème, quelle que soit la substance, quelle que soit d'ailleurs même la dépendance sans produit. Il y a une addiction, et on pense que c'est plutôt ce qu'on appelle un serpent à plusieurs têtes, c'est un même mécanisme neurobiologique. Et puis finalement, que ce soit l'héroïne, le tabac, c'est à peu près le même problème. C'est moins simple que ça. On a plutôt tendance à parler de conduite addictive maintenant pour intégrer les comportements. Les addictions sans substance. En cas de produits psychoactifs, et même en dehors, bien différencier l'usage de l'addiction. Tous les usagers ne sont pas dépendants. Par contre, si on est dépendant, c'est a priori c'est qu'on est usager. Il y a l'aspect le comportement, le produit, mais toujours intégrer la notion de ce n'est pas que le produit. Le produit n'explique pas tout. Il y a l'individu avec ses vulnérabilités, avec son passé, qui sont indispensables à intégrer, à considérer dans la prise en charge. Et il y a l'environnement, voilà. C'est-à-dire que à vulnérabilité égale, produit égal, un environnement défavorable chez certains, ben, les a mis plus à risque de devenir dépendants, perdre le contrôle de leur usage. Donc je l'ai déjà dit, toutes les substances psychoactives ne produisent pas une dépendance, hein, que tous les usagers de produits psychoactifs ne sont pas dépendants et qu'il existe des addictions sans produit. Voilà pour cette première partie, pour poser la définition. Et puis j'ai été un peu plus longue, désolée.
Non, merci beaucoup.